Vous écoutez France Culture.
Françoise Tressart et les Papous du Dimanche, en piste pour la récré littéraire de France Culture. Au menu, la première partie de notre émission, enregistrée il y a 8 jours à Toulouse, dans le cadre du fameux Marathon des mots. Le Marathon des mots dont France Culture est partenaire. Le marathon, c'est la folie dans la ville, des auteurs, des comédiens, des lectures, des chansons, partout, partout, dans les lieux les plus beaux de la ville. Et dimanche matin dernier, les Papous dans la tête, ça se passait à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, la plus ancienne église de la région, transformée en salle de spectacle. Une salle magnifique, pleine à craquer. D'ailleurs, les auditeurs qui n'avaient pas pu prendre place ont écouté eux aussi dehors, puisque l'enregistrement y était diffusé. Ils étaient debout ou assis à la terrasse du bistrot d'en face en toute complicité. Dominique Muller, Lucas Fournier, Hervé Letellier, Jeanne Carillon, Patrice Caumont et Serge Joncourt avaient fait le voyage à Toulouse avec moi. Et quel plaisir de se retrouver dans ce lieu magique pour faire la fête aux mots. Pour ouvrir cette matinée à Saint-Pierre-des-Cuisines pour le Marathon des mots, Jeanne Carillon a préparé une chanson, un petit aperçu du programme sur l'air des Demoiselles de Rochefort.
Bonjour public des Papous, coucou, cette chanson est pour vous. Sans froufrou, je vous présente ma bande de foot, bagou. Certains sont des filous, d'autres des canaillous. On est venu vous tarabuster. Le dimanche, c'est bon de cogiter. Les ménages, faut les exciter. Il faut aimer. Aimer les mots, les calembours, le DLA 3 fois par jour. Aimer se frotter aux contraintes, claquer la langue sans aucune crainte. Aimer les ogmes, les lipogrammes, aimer faire des fausses réclames. Aimer se creuser le ciboulot, surtout si ça nous rend dingo. On est venu vous tricoter, poter, un tas d'histoires insensées, bilvesées. On est prêt à poéter, pouetter. Les rimes n'ont qu'à bien se tenir, on va les chanter. Les apocopes vont rappliquer, les synecdoques vont chahuter. Les ellipses vont se carapater, il faut aimer. Aimer la langue, aimer le verbe, aimer trifouiller les proverbes, aimer parler d'anacolute, juste pour trouver une rime en nut. Aimer les chiasmes, les catacrèses, ouvrir, fermer les parenthèses, aimer rouler les mots valises, chanter Muller, chanter Joncourt, chanter Fournier, chanter Letellier, chanter Caumont, chanter Tressart, chanter Toulouse pour être bien.
Comme Jeanne Carillon vient de l'annoncer, une fausse réclame. Au Papou, on appelle ça une publi-papoucité. Et ce sera aujourd'hui un clin d'œil aux fruits et légumes de saison. Et puis un hommage affectueux à Georges Moustaki. Elle a été écrite, cette pub, par Patrice Caumont. Et il est accompagné, pour la dire, par Lucas Fournier, Jeanne Carillon et Hervé Letellier.
Il faut manger chaque jour 5 fruits ou légumes minimum. Et s'il en est un qui a explosé cette règle, c'est bien Giuseppe Arcimboldo.
Il part la courgette à l'huile, l'endivalo et le chou-fleur à la vapeur. Verlaine l'a chanté, c'est frais, c'est bio et c'est green.
Voici des fruits, des fleurs et
du céleri en branche. Et puis voici un cœur d'artichaut en bajou, bouche en carotte nouvelle, barbe d'asperge blanche, l'aubergine pournée, un melon sur la joue.
Si vous aimez portraits et produits frais, vous apprécierez son étalage des quatre saisons.
Si vous aimez l'art, si vous aimez l'artichaut, vous allez adorer Archimboldo.
Avec sa tronche de pastèque, de fromage blanc, de yaourt grec, et ses morilles en vol au vent. Avec ses radis bien lavés, son céleri rave et ses navets, courge et poireaux bien trop gourmands. Avec ses petits pois vapeurs, haricots blancs, haricots beurre, il a pillé tous les jardins. Au seul portrait, il s'est tenu. Quelle compote eût-il fait d'un nu, poire ou citrouille pour les deux seins. Avec ses tronches de pastèque, de pommes d'api, de raisins secs, et toutes ses cruches et ses bolos. Il est vraiment végétarien, et du chou-fleur, c'est le titien, le Giuseppe Archimboldo.
Archimboldo, c'est beau comme un pot-au-feu et riche comme un cassoulet.
Nul n'a su comme lui enchâsser les cucurbitacées, rendre mignons les champignons et lumineuses les légumineuses.
Il travaille en format raisin et pour son panier garni, il moire les poires, irise la cerise et sombre le concombre. Archimboldo, c'est beau et c'est bio.
Si vous aimez l'art, si vous aimez l'artichaut, vous allez adorer Archimboldo.
Au cours de cette édition 2013 du Marathon des Moules, les auteurs belges ont été mis à l'honneur. Il y a une formidable après-midi à Amélie Nothomb sur France Culture. Et puis, on a aussi beaucoup parlé de Georges Simenon. Alors, j'ai eu envie de jouer avec Georges Simenon, avec des phrases qu'il a écrites, et d'en choisir trois en particulier. C'est toujours un petit peu difficile de choisir chez Simenon, parce que tout est formidablement écrit, tout fait image. Mais enfin, j'en ai trouvé trois dans un de ses livres qui a pour titre « Maigret et son mort ». Et ces trois phrases, eh bien, je les ai imposées à Hervé Le Tellier, enfin imposées, proposées. On peut dire imposées d'ailleurs, oui, c'est vrai. Imposé. Donc il y a une phrase qui devra être le début de son récit, une phrase qu'il devra glisser au milieu, mais évidemment dans le fil de l'action et non pas comme une citation. Et puis une phrase qui conclura son histoire. Alors ces phrases, on va les donner. Vous pouvez donner la première phrase, Hervé Le Tellier.
Mais volontiers.
Oui.
En fait, ce n'est pas une phrase.
Non, c'est un élément de dialogue.
Il m'a semblé.
Oui, bien vu.
Tu aimes la brandade de morue ? La réponse, je l'adore. Je ne la digère pas, mais j'en mange quand même.
C'est un bon début d'histoire, oui. Je trouve, non ?
Oui, oui, c'est très bien.
Alors, au milieu, il devra écrire « Je n'utilise pas d'adverbes, je n'utilise que des mots à trois dimensions. » C'est pas mal, hein ? C'est intéressant, ça. Oui. Ça porte le texte vers une autre dimension, je trouve,
oui.
Justement. Et la phrase de fin, Hervé ?
Alors, c'est également un dialogue entre deux personnages. « Elle est du midi ? Vous pourriez dire midi et demi. Marseille, Toulouse, à Vélassan. »
Voilà, donc le récit d'Hervé Le Tellier doit réunir ces trois phrases. Et je crois que vous avez distribué des rôles à Jeanne Carillon.
Le caractère dialogué m'a imposé une petite scène de film, de théâtre. Alors voilà. J'ai trois personnages.
Oui.
J'interpréterai le rôle du vide ordure.
Ça Luc. Vous va pas mal.
Oui.
Bah, et qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ? Je vais pas lui dire ça vous va
c'est,
pas.
C'est votre choix. Lucas jouera le rôle du sac poubelle.
Oui.
Et puis, bien sûr, Jeanne sera la poubelle.
Pour aller danser. Et...
voilà.
Eh bien, c'est parti. On est dans quel genre d'histoire, Hervé ? Vous pouvez le dire avant ou pas ?
Une ambiance détritus.
D'accord. Voilà. Ce serait le titre.
Oui, c'est un bon titre pour Simenon, une ambiance détritus.
Ouais.
Voilà. Tu aimes la brandade de morue ?
Ah, je l'adore. Hein. Je ne la digère pas, mais j'en mange quand même.
Moi au fond, tu vois, je ne sais pas si j'aime. Quand on m'en donne, c'est toujours enveloppé dans un sac plastique. Alors évidemment, j'ai l'odeur, mais jamais le goût. Ça frotte contre le conduit.
Ah oui, contre le conduit.
Ah oui. Ouais.
Ah, c'est pour ça, tu vois, que je préfère être un sac poubelle. Nous, les sacs poubelles, on profite du goût des choses. Ça reste, ça stagne même. Alors que chez vous, les vides ordures, là, tout file, tout passe, tout casse même.
Ouais, parfois, ça arrive, hein, le sac plastique se déchire. Et j'ai un petit peu une idée du goût.
Oui, d'accord, mais c'est tout de même très fugitif.
Ah, hélas, oui. Enfin, je dis ça, mais parfois, on se dit tout de même que c'est tant mieux si on n'a pas le goût. Je me souviens une fois avec des couches culottes.
Ah, tais-toi, ah, tais-toi, tais-toi. Moi, on m'en met une, je sais ce que ça signifie, hein, c'est la faim. On me descend aussi sec, enfin, aussi sec, façon de parler.
Dis-moi, tu fais combien de litres?
30, 31 quand je m'étire un peu. Je devais en faire 50, mais à l'usine, j'ai été malade.
Ah oui. J'ai une question intime, mais je ne sais pas si je peux te la poser.
Et c'est toujours.
Bon, alors je me lance. T'as des poignets?
2. Ouais. Jaune, coulissante. Et puisqu'on parle, dis-moi, et toi, tu as un gros conduit?
Ben, à la vérité, pas très gros. Ah. Toi, tu passerais pas.
Ah.
Mais en hauteur, il fait bien 15 mètres, hein,
ah,
quand
oui,
même.
Oui,
hein,
oui,
et je peux faire jusqu'à 25 minutes en vitesse théorique. Bon, ça m'est jamais arrivé que j'ai ce débit-là. Hein.
Ah bon? Et même pas à Noël ou au jour de l'an?
Non, jamais. Pas un accident. Ah si, une fois seulement, j'ai connu une collision au troisième entre des restes de pizza et un sac aspirateur qui a explosé sous le choc. Oh, une horreur. J'ai toussé pendant des semaines.
Non mais tout de même, 25 minutes en vitesse théorique, hein, mais c'est extraordinairement, mais formidablement, merveilleusement rapide.
Bon, disons rapide.
Rapide.
J'utilise pas d'adverbes, j'utilise que des mots à trois dimensions. Ça compense mon côté vertical hein, à une seule dimension. Au fait, j'y pense, tu t'entends bien avec ta poubelle?
Ah, très bien.
Je te le demande parce que j'ai l'impression qu'elle me fait la tête. Je lui parle, elle me répond jamais.
Ah mais pas du tout, non. Elle est juste sourde comme un pot.
Ah.
N'est-ce pas que tu ne fais la tête à personne?
Hein?
Le vide-ordure me demandait si on s'entendait bien.
Il a des acariens?
Ouais, c'est terrible, hein. L'année dernière, le gamin de la concierge a fait sauter son couvercle avec un pétard et depuis, elle est comme ça. Je lui raconte l'histoire du pétard.
Il a aussi des cafards?
Ah, c'est triste, hein. Mais au fait, j'y pense. Toi, tu l'as déjà vue, la concierge?
Bah, disons que je l'entrevois quelques secondes quand elle vient prendre l'ébène.
Ah, parce que nous, on la connaît pas. Hein. La poubelle ne bouge pas de l'appartement, et moi, quand elle sortira les poubelles, je serai soit au fond, sous les collègues, soit sous le couvercle fermé. Alors, je saurais même pas de quoi elle a l'air.
Il a aussi des protozoaires?
Oh non, c'est.
Oh là là là. Oui, oui. Vous savez, les filles, hein, moi je vois surtout ses mains. Hein. Mais en tout cas, elle est du Sud. Hein. Ça s'entend quand elle discute avec les éboueurs et qu'elle dit eh ben, ce matin, elle ne sent pas la rose à cette benne.
Ah, elle est du Midi.
Vous pourriez dire midi et demi.
Marseille.
Toulouse à Vélassin.
Ah.
Ça n'a l'air de rien, mais c'est pas si facile. Hein. Vous avez vu avec quelle subtilité il a amené la phrase du milieu. Alors, les papous dans la tête de France Culture au Marathon des mots de Toulouse. On est encore un peu dans le temps, dans la période du baccalauréat. D'ici le 10 juillet auront lieu les rattrapages pour ceux qui l'ont pas eu du premier coup. Et il m'a semblé intéressant de mettre à notre programme la dissertation du dimanche. Alors, c'est notre dissertation des papous dans la tête. Je vous explique, deux examinateurs, Serge Joncourt, Lucas Fournier, deux candidats, Patrice Comont, Hervé Le Tellier. Chacun des examinateurs a tricoté un bon petit sujet de philo niveau bac, un sujet qui s'appuie sur une certaine citation qu'ils ont inventée, bien sûr, mais attribuée à un penseur, et une citation dont ils ne révéleront que deux mots importants aux candidats. Alors, au candidat, évidemment, de tricoter à son tour la citation et puis de traiter le sujet qui sera devenu un petit peu son propre sujet. Un premier sujet, justement, proposé, imposé par Lucas Fournier à Hervé Le Tellier. On peut l'écouter.
Alors, monsieur Le Tellier, voici le sujet qui vous est proposé ce matin. Dans Les fondements de la métaphysique et des mœurs, paru en 1785 sous le titre Grundlegung zur Metaphysik der Sitter, Emmanuel Kant fait ce constat un brin amer. Ich bin nicht, phénoménologie. Ich bin nicht. En vous appuyant sur vos connaissances de la vie et de l'œuvre des grands philosophes du XVIIIe siècle, vous répondrez à la question suivante. Comment faire de la morale si on n'a pas le moral?
Oh, c'est un très très beau sujet. Hein. Comment faire de la morale si on n'a pas le moral? C'est bien, hein, Hervé.
Oui, ça marche pas en allemand. Mais c'est intéressant en français.
Est-ce que vous avez une petite question à poser à Lucas
Aucune.
Fournier?
Aucune.
Vous êtes servi. Maintenant, on va découvrir le sujet proposé par Serge Joncourt à Patrice Caumont.
Oui. Monsieur Caumont est-il là?
Oui. Ah, pardon. Présent.
Très bien. Bon réflexe. Comme l'a écrit Jean Galevitch dans le « Je ne sais rien » et le « Presque quoi », blablabla, blablabla, irréversibilité, blablabla, blablabla, thermostat 12.
Bon. Oui.
C'est quoi
ça? Ça fait très philo. Irréversibilité et thermostat
12.
12. C'est un peu fort, 12. Hein. Ouais.
Ne cachons pas la vérité.
Oui.
À la lumière de votre expérience personnelle, tentez de démontrer au nom de quel principe il ne suffit pas de dresser une crème renversée à l'envers pour affirmer qu'elle soit à l'endroit, de même que faire demi-tour dans la rue ne permet pas toujours de retourner vers chez soi.
C'est tout ? C'est profond, hein ?
C'est noté ?
Non, vous allez lui confier le texte, évidemment. Alors, Patrice Caumont, est-ce que vous avez une petite question, un petit éclairage?
Ah non, le sujet est très fermé, oui.
Oui.
Non, c'est renversant.
Oui. Allez travailler. Alors, ils vont travailler, là, juste derrière nous. Ils vont mettre des casques pour s'isoler un petit peu du bruit ambiant, parce que nous, on va continuer à jouer avec vous. On va passer à une expérience de tourisme minimal. Alors, il y a des gens qui partent toujours très loin, très cher, très vite. Et puis, il y a ceux, une autre variété de touristes, qui préfèrent laisser voguer leur imagination et se concentrer sur des petites expériences minimales, on peut dire. Par exemple, passer une nuit au Mont Plumard avec excursion au pays de sous les draps. Ou bien 3 jours en éolienne par grand vent. C'était avec Serge Joncourt il n'y a pas si longtemps et c'était très très bien. Et donc aujourd'hui, c'est Dominique Muller qui nous propose une expérience de tourisme minimal à sa façon. Alors, où êtes-vous allé, Dominique? Que faites-vous?
Je fais du vélo. C'est plus modeste que l'éolienne, mais je fais du vélo.
Vous savez que le Tour de France a commencé?
Oui, c'est un hasard. Moi, j'aurais pu y participer.
Certainement.
Alors... Parce que je ne sais pas faire de vélo. Incliné dans la direction du virage, je tombe. Peut-être qu'il existe des vélos d'enfants pour adultes avec des petites roues arrière, mais c'est gênant rien que d'y penser. Bref, je ne suis pas de ces joyeux randonneurs en route pour des virées entre copains, avec leur bécane dans un train régional, du vin dans les gourdes et la promesse d'un repos bien mérité dans un gîte rural. Quand je les vois, j'imagine monts et merveilles, pentes et descentes, danseuses et roues libres, avec toute la griserie d'une chanson d'Yves Montand. C'est pour ne pas mourir idiote qu'à Toulouse, je fréquente l'Échappée Belle, le magasin de vélos vente et location de l'avenue Étienne Billière, après le pont neuf côté Saint-Cyprien. Je ne sais pas si vous voyez.
Vous connaissez, non? Vous voyez,
ouais. Alors, il y a là toutes sortes d'engins et des gens qui en parlent comme si leur vie en dépendait. Il me suffit de prendre l'air entendu et le sourire qui en dit long sur ma pratique pour me transformer en cyclotouriste aguerri. La seule ici qui ne sache pas faire de vélo, mais ce n'est pas écrit sur ma figure. Je feins d'examiner les modèles pour choisir le plus adapté, ce qui, semble-t-il, se complique avec le niveau de compétence du cycliste. En réalité, je lis les étiquettes avant de placer les spécificités techniques dans la conversation. Car la première partie d'un voyage à vélo, peut-être la plus excitante, consiste à causer vélo, en initié d'une société ésotérique au langage codé. Au début, je pédalais dans la choucroute, mais j'ai vite appris à comparer grands et petits braquets, moi aussi, selon le rapport entre le nombre de dents du plateau et celui du pignon. Puis, je discute de l'utilisation du dérailleur suivant la pente, le vent, le virage pris à la corde ou sur un plus grand rayon. Même inventé, le vélo, ça ne s'oublie pas, et c'est les doigts dans le nez et les orteils en éventail que je fais passer la chaîne d'un pignon à l'autre en apesanteur sur cette planète appelée deux roues, où l'on papote potence, jante, angle de jeu, démultiplication. À force de me voir traîner dans le coin, Charles et Xavier m'ont demandé en cœur si je cherchais un modèle de course ou de randonnée. Les deux en un, ai-je répondu au hasard. Et en carbone, taille de cadre 47-48, hauteur d'entrejambe 82, me rappelant les conseils affichés près des locations.
Elle en connaît un rayon, hein.
Ils m'ont regardé les yeux ronds. Mais l'important, c'est de montrer son assurance. Ignorer ce qu'il a sous le nez n'a jamais retenu un touriste, cyclo ou non, d'en parler, pas vrai? Le fait est que foncer avec mon vélo dans la tête me rend intrépide. C'est ainsi que je les roule, les connaisseurs, durant mes échappées si véloces que je dépasse sans effort celle que je suis d'habitude, la laissant très loin derrière, en queue de peloton. J'éprouve le plaisir de l'imposture. Qu'est-ce qu'on peut rouler sa bosse et qu'est-ce que la campagne est champêtre quand on se borne à le raconter? Je varie mes équipées en m'immisçant dans les randonnées des autres. À un gars et une fille qui se tenaient par la taille devant les vélos, j'ai recommandé de rouler en tandem. Je suis peut-être nulle en fourche à suspension en élastomère, mais experte en déraillement à deux. Tandem égale entente, ai-je dit. Un double cœur dans les mollets, le pouls dans les talons. Voilà ce qui fait avancer. Non, les roues, je parle d'expérience. Et impossible de se disputer, de se séparer. Croyez-moi, il n'y a que les fondamentaux de la vie qui vaillent, solidarité, entraide, etc. Sans me vanter, je suis bien placée pour démontrer aux cyclotouristes que ce n'est pas la musculature qui compte, mais le rêve à poursuivre. Par exemple, lorsque je roulais vers Compostelle, par la voie du piémont pyrénéen, je poursuivais mon but avec tant de fougue, 80 km jour et seul et sous un déluge, ce n'est pas rien, que j'oubliais la route inondée à hauteur de pédalier. Qui dit Compostelle dit montagne, et je peux vous dire, les amis, que je les ai dévorés, les cols, sous des rafales de neige. En été, oui, mais je n'allais pas renoncer pour un petit incident à Londres. Ils adorent ça, les incidents. Le cerf qui bondit du sous-bois sur mon guidon, la nuit chez les Pandores espagnols à cause de mon béret basque, et bien sûr le dérailleur qui saute, la roue qui se voile, les chutes, les mille broutilles inévitables. Une fois qu'on est rentré, les incidents font le sel du voyage, plus mémorable que les beautés du paysage et les grandes bouffes du soir. Moi, quand je roule, j'ai les yeux braqués sur l'horizon, parce qu'à vélo, on a toujours l'avenir devant soi et que chaque coup de pédale vous y conduit. On avance, c'est tout, même en bord d'océan avec des vagues gigantesques et une tempête à renverser les bicyclettes, mais pas la mienne, forcément. Bon, je ne sais toujours pas faire de vélo, mais je sais que les souvenirs mensongers sont plus beaux que les véridiques et les espaces-temps imaginaires plus exaltants que les voyages limités. Ça, j'en vois du pays dans ce magasin de vélo et je ne suis pas prêt d'en avoir plein les pattes. Ça me donne envie d'y aller demain, tiens, histoire de me mettre en jambes.
Et je peux vous assurer qu'elle en a encore sous la pédale, Dominique. Lucas Fournier, est-ce que vous avez croisé Dominique dans cette fameuse boutique?
Eh oui, pour mon malheur, parce que je suis client de l'Échappée Belle.
Oui, vous êtes l'homme du petit couple.
Oui, comment vous le voyez?
Bah, je ne sais pas, j'ai eu l'impression. Justement, comme
donc
ça.
Ma femme et moi, nous avons écouté les boniments. Et donc, quelques jours après, j'adresse cette lettre au directeur de l'Échappée Belle. Mmh. Grenoble, juillet 2013. Monsieur le directeur de l'Échappée Belle, à l'instigation de votre pétulante employée, Madame Dominique M., nous avions, ma femme et moi, opté pour la bicyclette modèle Marguerite, le tandem qui ne perd jamais les pétales, ce tandem où les mœurs et les collets se confondent, pardon, où les cœurs et les mollets se confondent. Donc, pour notre voyage de noces, nous voulions faire la Madeleine, comme nous l'avait aussi suggéré la vibrante Dominique M. La Madeleine, comme nous a-t-elle dit, c'est un nom proustien pour un col Claudine. Alors, ma femme, ayant fait sa thèse sur Colette et la pâtisserie au beurre, ça tombait bien, et vous pensez si la perspective d'un gravissement... Alors, je ne sais pas si le mot existe, mais au point où j'en suis, ce n'est pas le moment de me chercher des poux dans la syntaxe. Donc, la perspective d'un gravissement du col Claudine de la Madeleine, en tandem, avec son cher étendre, le cher étendre c'est moi, mettait ma femme dans un état de ravissement complet. Et sur les recommandations de l'épatante Madame M, nous avions pris pour l'ascension, pas le week-end de l'ascension, mais l'ascension du col, nous avions pris donc une gourde hygiénique à bec verseur plein de boissons énergisantes, le maillot à poil orange à la baie en polyacrylique polyamidé et le casque à pointe Candeloro. Non, Caracalla ou Cancellara, enfin je sais plus. J'ai plus le nom du casque en tête. Et nous arrivâmes, le cœur tremblant à Grenoble, prêt à attaquer la Madeleine comme un conquistador ou comme un contador. Et le col de la Madeleine, monsieur le directeur, eh ben, nous ne l'avons pas vu. Ni ma femme, ni le tandem, ni moi. Et pourtant, il n'y avait pas de brouillard. Hein. Nous attendions Madeleine et Madeleine n'est pas venue. Oui, comme disait Jean Valjean.
Elle est double. Non,
oui. Donc, oui, je vous sens, monsieur le directeur, un peu excédé par cette lecture. Hein. Oui, vous croyez que je vais vous raconter une crevaison ? Quand on est sur un clou, c'est normal de crever ? Eh ben non, même pas, non. Vous imaginez peut-être la scène de ménage classique à tandem pour savoir qui prendrait en main les rênes ou du moins le guidon du couple et qui pédalerait derrière ? Eh bien non, notre couple n'a pas déraillé. Vous pensez que nous n'avons pas pu suivre notre pente, toujours en montant, et que nous nous étions un peu poussés du col à vouloir le gravir ? Pas du tout. Vous songez que ma femme a rencontré un ours slovène au détour d'un virage, là où la pente est à 25%. 25% de quoi, on ne sait pas. Et qu'elle aurait disparu avec ce plantigrade velu ? Non, en aucune façon. Non, en ce 22 juillet, le jour où l'on fête les Madeleines, un mois après notre mariage, nous avons trouvé le col fermé à cause du passage du Tour de France. Et en plus, c'est un coureur du plat pays, enfin des Pays-Bas, qui a gagné. Comme quoi, à vélo, la Hollande ne compte pas pour du beurre. Bref, votre sémillante madame M, je sais tout sur les vélos, ne le savait pas. Du coup, on est rentré à pied avec ma femme. Aussi, je vous prie, monsieur le directeur du magasin où sévit madame M, de bien vouloir reprendre l'ensemble du matériel inusité, et en particulier votre tandem, usque tandem Catilina, comme dit Pantani. Vous me restituerez aussi mon schleck. Voilà, je n'ai pas de chute à mon récit, mais c'est à vélo, c'est plus prudent. Voilà, c'est signé à Marie qui n'est pas à la noce.
Et je devine que Jeanne Carillon est la petite dame du tandem, c'est ça ?
Oui, je suis la femme, mais mon mari n'a pas raconté exactement toute la vérité dans l'histoire.
Ah, mais c'est toujours comme ça, les maris. Oui.
Je vais vous chanter sur l'air de Tandem de Gainsbourg. Et c'est normalement interprété par Vanessa Paradis. Voilà.
Oui, on va écouter.
Ce sera mieux.
Pour faire la Madeleine, sans problème, mon mari me traîne sur le tandem. J'ai peur de l'érythème, des édèmes. Je me badigeonne tout plein de crème. C'est la galère, ah, d'être à l'arrière, ah, le nez collé dans son derrière. Je me cramponne, je pèse des tonnes. Je voudrais surtout pas me péter la colonne. C'est Dominique M, tandem, qui conseille de faire du tandem. Tombé sur la tête, tandem, je suis blême. J'aimerais tant que mon mari me sème. Et je déraille, aïe, et je défaille, ouh. J'atterris tout droit dans la paille, aïe. Je me réveille, quelle merveille, avec un type qui me titille l'oreille. Viens belle demoiselle, je t'enlève dans les airs. Montons tous les deux jusqu'au septième ciel. Oublie ton tandem, indemne ton tandem. Ton mari tout seul pédale dans la crème. Trop occupé à pédaler, se rend pas compte que tu l'as largué. Viens goûter mes baisers, ma Madeleine à moi est bien plus sucrée. C'est Dominique M, tandem qui conseille les amoureux de la Madeleine. Pas besoin de tandem si t'aimes la Madeleine. Pédale à côté de celle que tu aimes.
« Les Papous de France Culture au Marathon des mots de Toulouse à Saint-Pierre-des-Cuisines. Alors là, avec Dominique, avec Lucas, avec Jeanne, on était dans la vraie vie. Et maintenant, on va s'intéresser aux personnages de fiction. Les personnages de fiction, ils vivent en général toujours la même vie au fil de leurs films, au fil de leurs romans, de leurs tragédies. Ils n'ont jamais leur mot à dire dans l'histoire. Et peut-être que parfois, ils se lassent. Et ils aimeraient que leur créateur, leur auteur, apporte des légères modifications à leur vie. Et c'est le cas de Lucas Fournier. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un personnage de fiction, Lucas Fournier, parfois, en tout cas aujourd'hui. Vous êtes qui, Lucas ?
Ken.
Le Ken de Barbie ?
Oui.
Oh, lui-même ? Oui. Non, c'est bravo. Ah oui, ça vaut le coup de siffler un petit peu. Waouh. Et alors, il n'est pas content, Ken ?
Non, alors...
Il a une petite femme charmante.
Oui, justement.
Oui.
Et surtout, c'est un papa. C'est le président de US Toys Made in China à Los Angeles.
Ah ouais.
Et donc, je lui écris.
Ah oui. Il est mignon, Ken. Hein.
Oui. Cher auteur de mes ours, cher papa, vous êtes un père heureux. Vos enfants réussissent au-delà de vos espérances. Vos créatures sont légales de Polly Virzini. Non, papa, Polly Virzini n'est pas le nom d'une marque de vêtements à la mode. C'est le titre d'un roman d'amour de Bernardin de Saint-Pierre, qui n'est pas un coquillage, mais un écrivain français. Ou alors, disons, vos créatures sont légales de Aurélien ou Bérénice, ou de Tite et Bérénice. Non, mais ce n'est pas la même Bérénice. Alors, pour prendre des références qui vous soient moins lointaines, nous sommes les nouveaux Eurydice et Orphée, les nouveaux Rodrigue et Simène, les nouveaux Roméo et Juliette. Vous êtes un père heureux, mais moi, je suis un fils malheureux. Moi, Ken, je passe à côté de mon destin. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de moi-même. Oui, j'ai fait un rêve. I had a dream. J'ai secrètement rêvé d'être D'Artagnan. Alors, D'Artagnan, papa M, est une sorte de Superman terrestre, à cheval, avec une épée de Jedi, mais sans le laser. Et j'en suis encore loin de D'Artagnan. Hein. Pardieu, pas d'épée, pas de cheval, enfin, sauf dans Ken et Barbie sous Apollo, et pas de moustache de cadet de Gascogne. Pourtant, tous les matins, je vérifie dans la miroir loupe de Barbie, star de cinéma, mais pas l'ombre d'un poil ne se dessine au-dessus de mes lèvres. Pour qui sonne le glabre, comme disait Hemingway. Hemingway, c'est une sorte de Ken à la pêche. Bon. Alors, j'ai essayé d'expliquer à Barbie princesse comment elle pourrait être reine de France et à Barbie super espionne comment devenir Milady de Winter. Mais elles ne comprennent pas du tout de quoi se parle. Et puis Mordius, ma virilité gascogne, n'est pas encore à la hauteur du personnage. Je me sens plus Abélard que D'Artagnan. Chaque année, j'espère que la nouvelle collection Ken et Barbie fera une part à ma masculinité, même infime, même mannequin-picienne. Mais non. Oh, je comprends qu'étant fabriquée à Los Angeles, la cité des anges, je sois condamnée à rester androgyne. Pourtant, papa M, D'Artagnan et moi, nous avons deux énormes points communs. Alexandre Dumas et les femmes. Oui, Dumas père, père de D'Artagnan, entre autres, a aussi écrit une tragédie intitulée Ken. Enfin, Keen. Je suis donc un peu le frère spirituel de D'Artagnan. Et puis les femmes. D'Artagnan et moi, nous avons un problème avec les femmes. Lui, c'est la reine, Constance et Milady. Moi, c'est Barbie, ma mère et les petites filles. Avec Barbie, notre couple est en crise. Entre le chaste et l'incestueux. Nous sommes davantage frères et sœurs que mari et femme. Alors, n'entrons pas dans une introspection bergmanienne qui vous échapperait. Elle est mon épouse, puisqu'il existe une Barbie mariée à 70 $. Et il y a même une Barbie divorce à 70 000 $. C'est exactement la même, mais il faut payer en plus la maison de Ken, la voiture de Ken, le bateau de Ken, le chéquier de Ken. Notre relation reste pure, comme c'est Tristan et Iseult, mais aussi fraternelle, comme les pharaons, puisque nous sommes issus du même géniteur, vous, Tristan et Iseult, les pharaons, Mordius, D'Artagnan s'éloigne. Et puis, j'ai un problème avec ma mère. J'ai vérifié, vous m'avez doté d'un nombril. Certes succinct, mais réel. Je sais ce que cela signifie. C'est Barbie infirmière qui me l'a expliqué. Un nombril égale une maman. Pourquoi me la cache-t-on ? Boris Cyrulnik a dit que mentir, c'est respecter l'autre. Mais si Cyrulnik lui-même ne dit pas la vérité, ce qu'il écrit est donc un mensonge. Papa, je veux savoir le secret de ma naissance. Suis-je comme Bambi, Babar, le roi lion ou l'étranger de Camus, une sorte de petit orphelin ? Ou bien ma mère serait-elle partie avec un vrai Ken ? Est-ce pour le ridiculiser, ce Ken, que tel un docteur Frankenstein vengeur, vous avez créé ce demi-mâle de 30 cm ? Qui est ce Ken inédit que vous avez lancé en 1961 ?
Ce Ken inédit,
non.
Ah, non, c'est drôle.
Ma mère est partie avec le président des États-Unis, c'est ça ? Oh, qui suis-je, papa M ? Qui est ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs, enfin, à part Barbie ? Et moi, qui suis-je ? Vous m'avez fait steward, pompier, maître nageur, docteur, footballeur, policier, mais jamais mousquetaire. Pourquoi ? J'ai 52 ans, puisque je suis de 1961. Cette année-là, les Russes lançaient Gagarine dans l'espace, les États-Unis lançaient Ken sur le marché. Oui. Donc à 52 ans, je me laisse manipuler par des petites filles qui babillent, qui m'habillent et me déshabillent. D'Artagnan ne supporterait pas un tel traitement. Vous imaginez la tête de Porthos s'il me voyait dans cet état ? Il ne voudrait pas de moi comme compagnon. Ah, on est en pleine bibliothèque rose. Dumas, c'est du rouge éror, du sang éror. Selon Françoise Dolto, ce sont des mamans virtuelles que je recherche, tel un petit Proust. Et pour le docteur Ruffo, celui qui se coiffe comme un Playmobil. Je serai une sorte de Nabokov inversé. Papa M, si vous avez un peu d'affection pour votre fils, faites quelque chose. Sortez l'année prochaine un Ken d'Artagnan. Sinon, Mordius, ce sera terrible. Avec mon épée, j'en ai pas, mais je prendrai le bistouri de Ken et Barbie au bloc opératoire. Je leur couperai les cheveux de toutes vos filles Barbie et je tatouerai sur leurs épaules nues la marque de l'infamie comme celle que portait Milady de Winter. Un dé gigantesque, le dé de Dumas, le dé de débauché, le dé avec lequel les petites filles ne voudront plus jamais jouer. Prenez garde, votre grand garçon, Ken.
Sergent-Co, c'est vous, monsieur M ?
Ah non, non, je suis Ken d'Artagnan.
Ah ! On l'a sorti, enfin !
Évidemment.
Oh, on est combien d'années plus tard ? 10 ans, au moins.
Oh non, non, ça s'est fait assez vite. Non,
ah
non,
oui ?
Oui.
Il a suffi qu'il demande, finalement.
Ben oui.
Et alors, content ?
Oui, c'est fabriqué en Chine, ça va vite, enfin bon.
Ouais.
Tout ça se fait très vite.
Vous écrivez à qui, vous ?
Eh ben, papa M, enfin, patron, oui, Big Boss.
Oui.
Merci, papa M. M le béni. En tout cas, bravo. Merci d'avoir exaucé mes vœux, car j'ai enfin pu réaliser mon rêve, puisque cette fois, j'existe bel et bien. Pour de vrai, je suis Ken d'Artagnan, mousquetaire du roi, avec, vous pouvez en juger, la parure complète, l'épée chromée, la reine, les ferrés, le cardinal, les intrigants de cour, les rivalités de pouvoir. J'ai même la cape façon bavoir géant. Ou manteau sans manches, enfin bon, ouais. Le chapeau à plumes qui me vient dans les yeux et la fraise de dentelle brodée, enfin tout y est, c'est réaliste, sinon que l'épée tout de même est en plastique, fort heureusement. Je vous en remercie vraiment, là le coup est réussi, c'est tellement réaliste que grâce à vous, mousquetaire, je le suis devenu pour de vrai. C'est formidable. Papa M, chers fabricants zélés, mais par pitié, sortez-moi de là.
Ah bon, il n'est pas content ?
Ah, j'en peux plus.
Ah ouais ?
Oui, j'en peux plus de cette époque, j'en peux plus. Sortez-moi de ce costume et de ces intrigues anachroniques complexes. Je comprends maintenant pourquoi, jusque-là, vous n'aviez jamais eu l'idée de faire un Ken d'Artagnan et vous vous contentiez de me mettre en pompier, golden boy ou maître nageur, mais pas en mousquetaire. Vous aviez raison, c'était m'épargner. Je dois le reconnaître, le costume est parfait, mais au sens propre, moins qu'au figuré, hein, il est trop grand pour moi. Alors évidemment, c'est bien beau de se retrouver plongé dans la campagne des vieux siècles. Les prairies sont charmantes et les œufs sont bio. Les côtes de bœuf ne sont pas sous blister et la crème fraîche se goûte à même la laitière, mais pour le reste, quel enfer. Quel enfer. Mon Dieu, capitaine M, quel bazar que cette époque. Est-ce t'en fou qu'on perd dans les transports? Rendez-vous compte que l'autre jour, j'ai mis 7 jours pour faire Vic faisant ça crambouillé. Même pas en période de pointe. Sans le moindre embouteillage, pourtant. Sinon, quelques chopines dans l'airlet de poste. Non, mais c'est l'enfer. 7 jours. Et sous la pluie, en plus. J'ai dû changer 20 fois de cheval. 7 jours pour faire 600 km. Non, mais attendez, c'est pas possible. Souvenez-vous, dans la version Ken à l'Aston Martin, je mettais 2 heures pour faire Dallas San Francisco. Alors, avec faisant ça, crambouillé. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Et puis surtout, pour couronner le tout, si j'ose dire, il y a toutes leurs histoires, leurs embrouilles auxquelles je comprends rien. Toutes ces bisbilles entre le cardinal et le roi, le cardinal de riche endroit, là, enfin le cardinal. Non, ils n'ont qu'à appeler l'ONU ou organiser des élections, un scrutin uninominal à 2 tours avec primaire décisive. Qui désigne le candidat, on n'en parle plus. Bon, alors évidemment, vu mon rôle, vous vous doutez bien qu'entre le cardinal et le roi, j'ai dû un peu prendre parti.
Il faut se mouiller un petit peu.
Alors, j'en peux plus devoir régler nos comptes à chaque fois à coups d'épée, qui ne sont pas pratiques du tout pour s'asseoir. Et puis c'est absurde de se battre avec des grandes broches en faisant des bruits de couvert. Enfin, ça ne me va pas du tout. Mais le pire dans tout ça, ce sont les 3 autres. Porti, Saratos et Artemis. Les copains, ouais, toujours à me la jouer, fraternels, copains, à me jurer leur loyale fidélité en me collant des grandes bourrades dans le dos, des rustres, oui, des Français. Et cette manie qu'ils ont sans cesse de vouloir se battre, se fourrer dans des embrouilles sévères, ça relève de la névrose, quoi. J'en peux plus, moi, de grâce. Envoyez-moi d'urgence une, vous savez, la Barbie l'infirmière. Celle avec la blouse blanche et le stéthoscope. Qu'elle vienne, j'aimerais bien pour me prodiguer un petit massage ou au moins un doliprane, enfin un truc. Avec tout ce qu'on boit comme Fronton, Gaillac et Madiran, j'ai la cervelle en cèpe de vigne. Non, sortez-moi de là, papa M. Mais surtout, sortez-moi de là avant le siège de La Rochelle. Car, pour tout dire, je ne parle pas encore très bien le français. Hein, pas du tout, même. Et je crains fort qu'avec l'accent, on me prenne pour un anglais, ce qui serait le comble pour un mousquetaire. On est bien d'accord. Non, mon Dieu, quelle histoire, quelle époque. Faites-moi vite sortir de cette crise que je retrouve mon petit contemporain douillet, mon petit demi-point de croissance et mon costume de trader. Non, je crois que j'ai pas les épaules assez solides pour être français.
Il n'est jamais content, Ken. N'est-ce pas, Dominique Muller? Vous êtes qui dans cette histoire, vous?
Je suis Milady.
De Winter?
Eh oui.
Oh là là.
Un rôle de composition.
Et alors, vous le connaissez, le petit Ken?
Oh là là, je le connais.
D'Artagnan?
Oh là là là.
Ah ouais.
Oh là là. Et j'écris, moi, à Dante Alighieri.
Ah oui.
J'envoie ça au pied de la statue devant les offices à Florence. Je crois qu'elle est toujours là-bas, la lettre.
On change de niveau, là. Hein.
Ah bah oui. Ouais. Nobody's perfect était la devise de l'enfer charmant où les patrons du cardinal m'ont logé ad vitam aeternam après mon exécution. C'est fini depuis que le diable sait qui m'a expédié ce Ken d'Artagnan dans une boîte écornée. Une étiquette mentionne A. Dumas, celui-là même qui m'a envoyé ad patres avant Mazarin, la fronde et le masque de fer si affriolant. L'autre autocollant de US Toys provient de Los Angeles, des anges ici-dessous, et pourquoi pas des auréoles tant qu'à faire tâche. C'est vous dire si d'emblée j'ai pris ce niais dans le nez. Ok, pour parler comme lui, chez Lucifer, on sait rendre un mal pour un mal. Mais comment m'y prendre avec un freluquet qui ne voit le mal nulle part? Imaginez une créature parfaite, Burke, je peine à l'écrire, sans l'ombre d'un vice, lisse et ennuyeuse à mourir si ce n'était déjà fait, même pas fichu de surgir tel un diable de sa boîte. Il m'a fallu défaire les liens de son emballage à la pince, en lui lacérant les membres, bien sûr. Mais croyez-vous qu'il aurait protesté? Rien, pas un cri, pas une douleur pour me plaire. il s'est contenté de tendre vers moi ses bras tout raides en couinant d'une voix de castrat. « Mommy, enfin !» Maman, à moi, la nuisible aventurière, la séductrice perverse. Je vous assure que ça a acheté un froid. Oui, même dans les flammes de l'enfer. Nous autres frileux bannissons le moindre souffle d'air. Et si sur terre j'étais Lady de Winter, ici-dessous je suis la prima Donna Summer, chantant le soir au coin du feu le « Oh, love to love you, baby » qui fit perdre la raison à Athos, Lord Winter et autres. J'ai arrêté à cause de ce pseudo d'Artagnan qui traduit « J'aime t'aimer, bébé » en amour maternel. « Mami !» Damned. Croyez-moi, depuis son arrivée, l'enfer n'est plus l'enfer. Des gosses, j'en ai eu, à mon image, cruels, rusés, sans foi ni loi. Pas ce Minus. J'ignore tout de son éducation, mais ses traumatismes sont gigantesques. Pardon, gigantesques. Qui lui a mis en tête qu'il suffit de porter un chapeau à plumer, une cape et une épée en plastique pour être un mousquetaire? Le pourfendeur des traîtres qui pullulent chez nous, le défenseur de la veuve, moi, l'égal du professeur Judas. Le plus insupportable, c'est qu'il croit dur comme fer, ou plastique dans son cas, que l'habit fait le moine. La preuve, il ne se met jamais tout nu. J'ai tenté de lui expliquer que si la tenue de cardinal avait fait de Richelieu un homme de bien, j'aurais été dans de beaux draps et qu'il se fourrait donc le doigt dans l'œil. Mais il n'a pas compris. Et pour cause, ses doigts ne bougent pas d'un poil. Allusion qui reste aussi étrangère à cette imberbe que les beaux draps aux puceaux pour qui coucher veut dire dormir. Adapter mon langage à ce gars, tarte et gnangnan, ça c'est la barbe. J'ai demandé à Jocaste, notre doyenne, de lui raconter ce qui arrive à Oedipe. Mais ce zozo n'a aucun complexe et s'est moqué d'elle parce qu'elle ne sait rien de Dolto et Ruffo. Qui sont ces zigotos? Des adeptes de l'American Way of Life auquel il essaye de me convertir? Car il a le toupet de me reprocher de ne pas avoir de grippin, de sèche-cheveux, de barbecue, ici, chez les champions de l'énergie renouvelable. Il a entrepris de toiletter Cerbère, qui déguerpit à sa vue. Il a vanté les vertus d'une barque à moteur à Ulysse, qui en a perdu son latin. Avec sa petite épée, il a voulu se faire un bouc de la barbe de Monsieur Landru, si bien que même ce brave veuf pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, le jugeant à ses retors pour être mon fils. Franchement, Dante, ce boulet me fait honte, impression inconnue qui me rend malade. Ici, c'est bien fréquenté, ce n'est pas vous qui direz le contraire. Et je ne supporte plus cet ostrogo, ce bachibouzouk, comme dit le capitaine Haddock en CDD ici-dessous, incommodé par le fumet de ses vêtements qu'il ne sait pas laver tout seul. Richard Nixon, l'ami que je surnomme CIA pour cher intrigant amoral, sait tout sur tout et essaye de me réconforter. Il m'assure que ce Ken est le jouet de pulsions qui le dépasse et qu'il décampera au plus tard à Noël. Mais je n'en peux plus, et quand je suis à bout, vous me connaissez, le pire n'est pas assez. Sauf qu'ici-dessous, le pire n'existe que sous la forme hideuse du meilleur, ce Ken qui ramène sa fraise. Je tourne en rond, Dante, et ça l'amuse. Et il insiste pour m'apprendre le hula-hoop de cercle en cercle à une vitesse d'enfer. C'est la goutte d'eau. Et ici, pas question. Aiuto, Dante, revenez. Ramenez-le à l'étage supérieur, chez cette gourde de Constance Bonacieux, chez Anne d'Autriche, une famille recomposée, ça se trouve. Tout ce que je demande, c'est qu'on me rende l'outre-tombe qui nous a tant apporté à vous et moi, celui d'avant, quand l'enfer, c'était le paradis. Milady, votre fidèle espionne, au dé de Dante, tatoué dans le cœur.
Les grands airs des airs de repos pour le marathon des mots, pour les papous dans la tête, à Toulouse. Alors, les grands airs des airs de repos, ce sont des chansons qu'on entonne en chœur, en voiture, quand on passe devant une aire d'autoroute, parce qu'il s'y est passé quelque chose, et que ce quelque chose qui s'y est passé, eh bien, on l'a mis en musique sur un air connu. Je vous présente Serge Joncourt, enfin vous avez déjà fait un petit peu sa connaissance, et Serge Joncourt est notre envoyé très spécial sur les autoroutes, oui, levez-vous un petit peu. Et en général, il part enquêter à ma demande. Évidemment, je lui dis, Serge, il faudrait vous rendre sur l'air de chance, par exemple, ou sur la coucourde. Enquêter, savoir pourquoi cette aire d'autoroute se nomme ainsi, chance ou coucourde. Et il revient, bien sûr, avec une histoire. Et ensuite, quelqu'un d'autre écrit la chanson du grand air, de la coucourde ou de l'air de chance ou de Fonche même. Fonche, c'était il y a un an à Valenciennes. Et alors souvent, Serge, comme il prend son métier d'enquêteur très, très au sérieux, il devient un petit peu le héros de sa propre enquête, de sa propre aventure. Et donc là, il est de retour. Il est revenu il y a quelques jours, juste le temps de prendre le train pour Toulouse. Je l'avais envoyé sur l'autoroute A32, enquêter sur une aire qui a un nom un petit peu compliqué. Enfin, je vais vous l'appeler. Ça s'écrit O-U-L-X-E-S-T. Alors, ça se prononce, je ne sais pas, Ouxest, Ouxé. Comment on dit dans le coin, Serge ?
Je ne sais pas encore. Très bien.
Ouxé.
Ouxé, Ouxé, oui. Ouxé.
Oui, voilà, mais vous l'avez trouvé.
Ouais.
C'est la question.
Justement. Alors, oui. Alors la 32 d'abord.
Oui.
Si vous voulez.
C'est où exactement?
Alors justement, c'est le problème. C'est entre la France et l'Italie.
Oui.
Mais en fait, ce serait plutôt un peu au-dessus des deux. Hein, parce que c'est
une autoroute de montagne.
Oui. D'ailleurs, là-haut, on parle pas franchement le français et pas vraiment l'italien, oui. Mais ce qu'on appelle l'occitan alpin. Des prononciations bizarres.
Ouais.
Alors, la 32, c'est une sorte de, on appelle ça une portion d'autoroute particulière, très complexe. C'est d'ailleurs la portion d'autoroute la plus difficile jamais construite en Europe, puisqu'elle est littéralement suspendue entre la France et l'Italie.
Oui, vous l'avez dit, un petit peu au-dessus.
Je l'ai testé.
Non, mais c'est bien de préciser les choses, parce que il ne faut pas qu'on se perde.
Non, parce qu'on l'appelle l'autoroute volante.
Ah.
Oui, j'ai trouvé ça joli. Là.
Ouais,
je l'ai noté, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous le dis maintenant.
Oui.
Alors, en fait, donc, elle relie Turin à Bardonnèche, en montant à plus de 1700 mètres d'altitude, quand même. Ce qui fait quand même... Alors, en passant...
Ça fait haut, oui.
Par une dizaine de viaducs,
oui.
Et une quinzaine de tunnels, dont un des tunnels à 1400 mètres d'altitude, long de 12 km 895.
D'accord.
Le tunnel, hein.
Oui.
Percé de 11 refuges,
oui.
1200 bouches à eau, 50 niches de secours, 500. Enfin, bon, c'est le
tout. Ah oui, c'est bien, vous avez pris des notes.
Ouais, ça rassure. Ouais,
oui.
Ça rassure.
Et l'aire de repos se trouve là.
C'est par là.
Oui.
C'est assez vertigineux. Alors, c'est vrai qu'à un moment, entre un tunnel et un viaduc, par moment, il arrive de rouler sur la terre ferme, à l'air libre, mais jamais plus de 2 minutes. Hein,
Ouais.
Alors bon, moi, en fait, je revenais de Venise où j'étais allé acheter des cartes postales.
Oui, c'est une bonne idée.
De frimer un peu vers la famille.
Ouais.
Donc j'arrivais, si vous l'aurez compris, dans le sens Italie-France.
Oui.
Jusqu'à là. Hein. Alors avant de prendre l'autoroute, une fois au péage, parce qu'évidemment, il y a un péage, parce qu'il est... Oui, j'ai la facture, d'ailleurs.
Ah oui, d'accord. On verra ça tout à l'heure.
Oui, d'accord. J'ai demandé à la guichetière si c'était bien la bonne autoroute.
On ne sait jamais.
Alors, à ce jour, je n'ai toujours pas compris si la guichetière était plutôt italienne, française ou occitane alpine, justement.
Oui,
je n'ai pas compris. Ouais. Donc, j'ai essayé l'italien, quand même.
Oui, ah oui.
Prego. Excusez, madame. Ici, à qui Autostrade à 32.
Ah, pas mal l'accent. Hein.
Autostrade.
Oui.
Bene, bene. Bon, comment se dice? Quiero l'aria de riposo de Uxé. Pardonne?
Oui.
Quale? Uxé. Si, Uxé. Ma Uxé che? Uxé. Attendez, l'air de repos. Uxé qu'elle est? Tout dépend de qui vous cherchez. Cercato. J'ai un dictionnaire. Hein,
Cercato.
Uxé. Uxé, ma per lo alto, ma dépende. Uxé este ou uxé oveste? Uxé oveste, uxé oveste. Bon, dictionnaire, est, oui. Ouais. Et là, j'étais un peu tendu quand même, il faut le dire.
Oui, inquiet.
C'est malgré, parce que je faisais une italienne, je dis, c'est sorti malgré moi. J'ai dit,
mais jolie.
Ouais. Non, pas vraiment. Non, c'est là que je lui ai dit, tu ne me prendrais pas pour une andouille, toi.
Ah bon?
Et c'est là qu'il me fait, ah, mais vous parlez français? Elle parlait français, mais toujours avec l'occitan alpin. Hein, Ben, oui, je suis français, madame. C'est flatteur en même temps, parce qu'elle m'avait un petit peu pris
pour un bel italien.
Oui, un italien, quoi. Oui, je suis français, ça se voit sur ma plaque, non ? Ben non, justement, d'où je suis, je ne la vois pas, votre plaque. En plus, avec ce brouillard, je vois à peine votre voiture. Oui, il faut dire... Alors, la montagne...
Alors, il y avait du brouillard.
Oui, il y avait du brouillard, c'est ce jour-là. Ouais. Bon, voilà mon problème. En gros, je voudrais me rendre à l'air d'Ouxelles, mais je vais être sûr que ce soit bien par là.
Ouais.
Si, Ouxelles, c'est très... Alors, questa sera... Et alors, parle en italien, je comprends. C'est alors, no, dopo il nono viadetto e primo il sesto ponte.
Ah, ouais.
Pardon c'est après le 9e tunnel, mais avant le 6e pont. Oh, attends, le 6e...
Vous avez pris des notes.
Oui, ça klaxonnait derrière, donc il faut... Bon, alors visiblement, c'est avant le 6e pont, mais après, non, avant le 6e viaduc, mais après le 9e tunnel. Bon, alors j'ai essayé de me répéter comme ça, mais d'un coup j'avais sueur froide. Et puis si vous voulez, dans ce genre d'autoroute, c'est un peu comme le Grand 8, hein, une fois qu'on est lancé dedans, on ne peut plus redescendre, il faut y aller, comme ça klaxonnait, donc j'y suis allé. J'ai essayé de me 6e viaduc, 8e pont, ah, je ne me rappelais plus. Alors, bon, dans ces cas-là, on commence par compter quoi ?
Les ponts.
Ou les viaducs ?
Ah ben oui.
Ben, ça, c'est ça, oui. Je ne savais plus, alors... Évidemment, là, sous la main, en plus, je n'avais pas pris de quoi cocher, surtout que j'avais les deux mains prises. C'est une autoroute, si vous voulez. Il n'y a que deux voies étroites. Et il faut rudement se concentrer, parce qu'entre les glissières et le vide, il n'y a pas beaucoup de marge, hein, en fait. Alors, ajoutez à ça la montagne, parce qu'il y a quand même des sommets dans les Alpes.
Oui.
Je vous l'apprends. Le brouillard qui forcit à mesure qu'on monte... Les ravins et les dévers de 600 mètres qui vous plongent à pic de l'autre côté de la portière, plus la perspective d'avoir 18 tunnels et 19 ponts, j'ai senti dès le départ que...
Très difficile.
Oui, c'était pas gagné. Alors, ce qu'il faut vous dire en plus, que bon, alors, évidemment, j'ai le vertige et je suis claustrophobe. Alors, les tunnels, mon Dieu, ces tunnels, c'est pas des petits tunnels de voie ferrée qui durent 10 secondes. Hein.
Non,
c'est des tunnels qui font, je vous l'ai dit, entre 2 et 12 kilomètres, hein, avec là-dedans... une panoplie de signalisations qui, pour moi, qui n'ai pas ouvert le code de la route depuis les années 90, ne veulent rien dire du tout. Je n'y comprenais rien à ces panneaux. Par intuition, je les pressentais un peu alarmistes, on va dire. Ça, on finissait pas. C'est comme, si vous voulez, un métro qui n'aurait jamais station.
C'est joli, ça.
Les viaducs, alors comment dire les viaducs, c'est à ce niveau-là, c'est plus des ponts, c'est juste que pendant 3 km, vous avez la route devant vous, comme ça, la route, vous voyez, la route. Sauf qu'il n'y a rien en dessous, il n'y a rien à droite, il n'y a rien à gauche, et pourtant, il y a la montagne au-dessus. J'ai pas compris, j'en sais pas trop en même temps. Alors évidemment, à peine j'avais eu le temps de repérer un viaduc, que paf, déjà, je m'enfonçais à nouveau dans les tunnels. Alors je savais plus où j'en étais, 3, 4, je sais pas. Les tunnels, si vous voulez, c'est un peu comme sous la Manche.
Oui.
Sauf que, à la différence,
oui.
Là, c'est moi qui conduisais.
Hein, oui,
sous
oui.
la Manche, c'est pas moi qui conduisais.
Oui.
Et puis sous la Manche, si vous voulez, il y a quand même la certitude d'avoir la mer au-dessus de soi.
Oui. Hein. Ça rassure.
Et on a beau dire, c'est rassurant d'avoir la mer au-dessus de soi. On sait bien que si ça tombe, c'est jamais que de l'eau. Là, ça fait pas mal. Alors que moi, j'avais le Mont Blanc, le Cervin, c'est tous les Alpes que je portais sur les épaules. Oui, évidemment.
C'était angoissant.
J'étais liquéfié.
Ouais.
Pas bien. C'est bien qu'après 25 km de route, je savais plus. Alors, si j'abordais le 6e tunnel ou si je sortais du 7e pont. Alors, je conduisais, moi, quand je conduis, d'une façon générale, j'ai toujours un œil sur le compteur.
Oui, c'est classique, hein, oui.
Pour la vitesse.
Bien sûr.
C'est limité à 50.
Ben oui.
Il vaut mieux. C'est pas 130, hein, c'est 50,
non,
surtout
non.
Qu'il y avait du brouillard. Bon,
oui.
À mon avis, bon, je dis du brouillard, c'était, à mon avis, hein, parce que je connais pas bien la montagne, c'était plutôt des nuages qui volaient trop bas. Mais... Appelons ça du brouillard. Je vais vous dire, à la limite, là-haut, il n'y a pas besoin de radar. Parce qu'on est tous tellement tétanisés par la peur du vide, le silence des tunnels et le brouillard, qu'il n'y a plus personne qui... Personne.
Ouais.
Les 50, on ne les fait pas.
Ah oui.
Impossible. J'étais tendu comme un arc. À la rigueur, dans les tunnels, on arrive plus ou moins à comprendre quelque chose à la route. On voit des flèches oranges, des extincteurs géants. On sent que c'est par là. Mais dès qu'on sort, le brouillard complet, on ne voit pas un mètre. Je ne saurais même pas vous dire si j'étais bien le seul passager à bord de mon véhicule. Tellement on n'y voyait rien. Non, ça virait au cauchemar. Je crois que jamais dans ma vie j'ai été autant concentré. Jamais.
Et alors, où que c'est
Alors, bon, ah oui,
on y arrive.
Alors, oui. parce que bon, alors à ça, je vous passe les détails.
Mais non, moi, bon,
conduis, non. Non, mais il faut bien savoir qu'aujourd'hui, quand on conduit, enfin en tout cas moi, il faut en même temps répondre aux CMS, aux mails urgents, aux coups de fil, sans quoi les gens s'inquiètent.
Oui.
Surtout quand ils savent que vous êtes perché là-haut sur la 32, qu'ils ont regardé sur Google. Non, il ne faut pas faire ça à sa famille. Si un jour vous y allez, ne leur dites pas.
Ah oui.
Ne leur dites pas. Alors bon, moi, évidemment, on va appeler. Allô ? Ça va ? T'es bientôt sorti ? Allô ? T'es passé dans le viaduc ? Dans le tunnel ? Allô ? Oui, du tunnel, moi, plus rien. Donc, ça, j'étais... Bon, il y a un moment, j'ai raccroché, j'ai coupé tout ça.
Ouais, c'était plus sécure, oui.
Donc, tout ce que j'avais à faire, dans cette purée de poids, j'ai eu peur. Ouais, moi, j'ai eu peur.
Vous avez freiné.
J'ai eu peur. J'ai vu face à moi, je me suis collé au cul. Il y avait un 35 tonnes, là, juste devant.
Ah.
Je me suis dit, je mets un mètre derrière.
Mmh. Hein ? Et je le suis.
Je le suis. Mais je me suis littéralement mis en remorque, si vous voulez. Là, je ne pouvais plus. Hein, je voulais juste sortir. À ce stade-là, je vais vous dire, j'avais plus... Je vais être honnête. L'air d'Ouxet, j'avais plus rien...
Ah, bon,
on va être franc.
Non, mais vous saviez qu'on devait en parler ici.
Oui, je sais bien,
même,
mais là, je voulais sortir. C'est tout ce que je voulais faire. Et j'ai dit, tant pis pour l'air, on va inventer un truc. Alors, je me suis rivé à mon sauveur qui roulait figé à 35 km/h au milieu des nuages. On a coulissé comme ça pendant au moins 20 bonnes minutes. Je ne voyais même plus les tunnels à cause de la fumée du camion. J'avais tout où j'en étais. Pour ce qui est du téléphone, on ne captait plus le silence radio, le flou total, 1800 mètres. Hein, j'étais en lâcher prise, comme on dit, lâcher prise. Et c'est à ce moment-là, alors qu'on était encore là, en plein nuage, je ne sais pas ce qu'il a pris à mon camion pilote. Il s'est mis à ralentir.
Mm-hmm.
Par conséquent...
Vous aussi.
Oui, j'ai ralenti, évidemment.
Ouais,
oui.
Ouais.
Puis il a ralenti encore. Bon, moi, j'ai ralenti encore. Et là, prudemment, il s'est doucement, comme ça, immobilisé, sans à-coup, comme une boule de billard sur son velours. Vous voyez. Alors ça, pourtant, on était encore, vu l'altimètre, on était à 1612 mètres, mais on n'est pas arrivé. Je ne voyais pas de péage, rien. On était au milieu de nulle part, j'ai coupé le moteur pour entendre si on entendait quelque chose, rien. Je suis sorti, je n'étais pas rassuré, je suis sorti de mon véhicule quand même pour aller jeter un œil à l'avant de ce camion, voir s'il y avait quelque chose. Hein. Voir déjà s'il était toujours bien là, le camion. C'est pas commode de marcher quand on voit pas ses pieds.
Ah, c'est angoissant. Hein,
ah, je vous assure, c'est pas commode. Ah, oui. Pas un bruit. Bon, j'y allais quand même. Je continuais d'avancer vers l'avant, prudemment. Et là, je suis tombé sur une armoire, mais de dos.
C'est le chauffeur.
C'est le chauffeur, oui. un type large comme un tracteur, en débardeur malgré le froid. Un rustique qui, visiblement, cherchait quelque chose. En tout cas, il était un peu penché. Vous savez, il a l'air penché de celui qui regarde vers le bas.
Oui.
Pardon, monsieur, je ne voudrais pas vous déranger, mais... Ah si, tu me déranges, et en plus, tu m'as fait peur. Désolé, c'est pourtant un gaillard, mais je... Excusez-moi, routier, pendant que je vous ai sous la main, je ne vais pas vous embêter longtemps, mais pourriez-vous m'aider ? Enfin, voilà, j'ai un petit problème complexe. Est-ce que vous sauriez me dire où que c'est qu'elle est, l'air d'où que c'est ? Bon, justement, bonhomme, je la cherche.
Ah, lui aussi.
Je suis comme toi, je la cherche.
Ah,
c'est
oui.
Comme un aveu.
Ah oui.
Ça crée des liens.
Ouais.
C'est dingue. On peut dire, j'avais de la chance. Mais je veux dire, comment ça, routier, vous la cherchez ? Ben oui, je la cherche. Ça fait 40 ans que je fais Istanbul-Le Havre en passant par Bardonech. Eh ben, c'est la première fois que je la retrouve pas. Ben quoi donc ? Ben où c'est ? Ben, c'est pas possible. Mais comment ça se fait ? Mais j'en sais rien, je comprends pas. Mais routier, vous y arrêtez souvent à où c'est ? Ben à chaque fois. Mais vraiment ? Mais oui ! Tu sais ce que c'est, à force de rouler, j'ai pris une tuto direct.
Hein, oui, sympa.
Bon camarade, routier. Quoi. J'ai mes habitudes, ma petite pause, mon sandwich et mon quart d'heure de sieste. Mais là, aujourd'hui, j'ai tout. Le sandwich, l'oreiller, la canette, j'ai tout. Il me manque plus clair. Il manque... Je ne la retrouve pas, mais peut-être que c'est à cause du brouillard. J'essaye une hypothèse. Mais j'en sais rien, j'espère. Ou alors, c'est qu'ils nous l'ont enlevé. Oh, ben non.
C'est pas possible, non.
Ben non, ben non. Si. Bah, tu vois une autre solution ? Bah non, routier. Ou alors, si ça se trouve, c'est peut-être qu'elle est tombée.
Ah ouais ?
Ou qu'on est dedans.
Ah !
Oh, là-dessus, le gars s'est figé. Instantanément plongé dans un abîme de perplexité. Puis je l'ai senti qu'il se mettait à pivoter le regard tout en tournant sur place, comme ça. Puis il m'a regardé à nouveau droit dans les yeux, comme s'il me demandait de l'aide. Mais ma table de pique-nique autostable, elle serait où alors ? Et ma poubelle jaune et verte, je la vois pas. Ben, j'en sais rien. Si ça se trouve, tout ça, c'est juste devant nous, là, à 2 mètres, avec ce brouillard. Ce brouillard, j'ose pas m'éloigner de votre camion. Ben, Écoutez, allez-y, jetez un œil, routier. Moi, je le garde, votre camion, on va pas vous le... Non, non, mais il faut pas faire ça, qui me dit, parce qu'à Ouxé, on a un pic sur la vallée, à plus de 1000 mètres de verre. Il n'y a pas de garde-corps à Ouxé, à cause des skieurs.
Quoi ?
Skieurs ? Oui, ici, on skie, même l'été. D'ailleurs, fais gaffe, faudrait pas s'en prendre un. On les entend jamais arriver, ces trucs-là. C'est des véhicules qui font pas de bruit. Oh, je suis pas bien, je le sentais pas bien, le gars, hein, je le sentais pas bien. Je lui dis, bon, routier, reprenez-vous, concentrez-vous un peu, nom de Dieu. Après tout, c'est vous qui la connaissez, cette aire, hein ? L'air d'Ouxé. Alors, vous devez savoir quand même, à force, avec l'habitude ou le GPS, je ne sais pas, si on est dedans ou pas. Écoutez, humez, on y est ou pas ? Là-dessus, j'ai senti que le gars était une crise de spasmophilie.
Ah oui, panique. De spasmophilie. Oui, panique.
Il, comme un gamin, bêtement, il dit, j'ai perdu mon air.
Oh là là.
Moi, j'étais pas fier non plus, mais bon, je suis chrétien, si vous voulez. Je l'ai aidé à remonter dans sa cabine. Pour qu'il récupère ses esprits, qu'il prenne pas froid. Hein. Et puis, qu'il mange un truc. Quoi. Je l'ai regardé faire.
Il vous en a offert un bout
Par compassion, c'est un chrétien aussi, probablement. Oui. Il m'a proposé de couper son sandwich en deux. Il faut dire que le sandwich faisait 2 mètres. Mais bon, oui. Alors, il a sorti une deuxième canette dans la glacière. Il me l'a tendue. On a pique-niqué tous les deux dans les nuages. Sans plus vraiment savoir du tout où on était. Hein. Ouais. Et c'est là qu'un skieur est arrivé. Ah oui, je vous jure. Non, un skieur est arrivé.
Ouais.
Bon, voyant le camion, il a tapoté au carreau comme ça. Vous savez, on l'a surplombé un peu. Quoi. Alors, le routier, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es en panne ou quoi ? Il dit, ben, il se connaissait. C'est René qui me fait mon chauffeur. René, c'est un guide de haute montagne.
Ah.
Il s'occupe du refuge de Rosérie, là-haut.
Ah ouais ?
Oui, le refuge, oui.
Ouais.
Écoute, René, je ne sais pas ce qui se passe, mais je trouve plus où que c'est. C'est normal que lui fait le guide, c'est normal, mon Raymond. Tu sais que maintenant, depuis qu'il neige de fin août à début juillet, elle est d'où que c'est, elle est partie. Comment ça, elle est partie ? Oui, une avalanche. Elle l'a emportée, tu la retrouveras du côté de Bardonnèche. Mais côté français, hein. Mais où précisément, je ne saurais pas te dire. Salut !
C'est une sacrée aventure. Moi, je ne regrette pas de vous avoir envoyé là-bas.
Je crois que j'ai pris froid.
Dominique Müller, c'est vous qui avez écrit Le Grand Air. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, cette histoire de Serge ?
Beaucoup de confusion.
Oui.
J'ai essayé de remettre les choses au clair, tout de même, de retirer. Oui.
Oui.
Je voulais absolument savoir où c'était, parce que si un jour quelqu'un se retrouve sur cette
autoroute, il faudrait trouver
où
c'est.
Au moins qu'il y ait un petit...
Oui. Et ça se passe sur quelle chanson ?
Ça se passe sur Le coup de soleil de Richard Cocciante qui, tel Serge, quand il ne chante pas, pousse des hurlements de désespoir. Donc je me disais que ça collerait bien.
Et c'est Jeanne Carillon qui la chante avec les cœurs papous.
J'ai attrapé un coup d'Everest, un brouillard plus coton qu'à Brest, de Bardonecchia à Modane, la 32 des Alpes occitanes, vire de tunnel en précipice. Dans mon auto, je sue des cuisses. Il y a des viaducs, j'ai mal au bide, suspendu au-dessus du vide. Mais elle n'est pas là. L'air de repos d'Ouxest, où que c'est qu'elle est, ma Altagreste. Mais elle n'est pas là. Et moi, je suis à l'ouest, perdu le nord, où que c'est que j'erre, ça serpente autant que sur au reste. Je peux pas conduire et compte arrêt. Depuis le péage égaré, tant d'extincteurs, de bouche à flotte, nono s'estauve là que je radote. Il fait tout noir, je suis claustro, comment m'arrêter dans ce métro ? C'est le grand 8, au moindre écart, ils vont m'écrabouiller l'écart. Mais elle n'est pas là, l'air de repos d'Ouxest, où que c'est qu'elle est, un signe, un geste. Mais elle n'est pas là, et moi je veux un zeste de réconfort, où que c'est enfin ces montagnes rustes célestes. Je n'ai pas la tête au SMS, d'un lambahut je me colle aux fesses, son pot m'enfume, j'y vois que quick, il pile je stop pour son pique-nique. Le malabar veut sa poubelle, où que c'est LX quand on les pèle. Il a perdu et ça le navre, son havre en Tristan boule le havre. Mais elle n'est pas là, non rien n'en reste. Où que c'est qu'elle est, notre air doux est. Mais elle n'est plus là, et vu le contexte, elle glissa fort dans le ravin, où que c'est dangereux pour la sieste. On a joué dans la cabine, à trouver d'où que c'est l'origine. Faut avouer que nos margoulettes avaient leur compte de canette. On fait demi-tour la galère pour en Hongrie chercher notre air. J'enverrai mes cartes, grosse bise, de Roumanie, pas de Venise. Mais tu n'es pas là, ma si lointaine Ouxeste, où que c'est tu es, à Bucarest. Mais tu es là-bas, est-ce à Budapest? Assez de sport, buvons à bord, gosier en pente, jamais funeste. Mais nous, on est là, on m'attonne jusqu'à Toulouse dans le camion. Mais on est tous là, où clair ses poumons, où c'est tout rose, sans arôme rose, sur les pelouses et la Garonne.
Les Papous au Marathon de Toulouse, fin de la première partie, avec Dominique Muller, Serge Joncourt, Hervé Letellier, Patrice Caumont, Lucas Fournier et Jeanne Carillon. Une émission proposée par François Strossard, équipe technique et de réalisation, Pierre Mine, Franck Lilin, Alexandre James, Romain Lenoir, Alexandre Martin, chargé de production Dominique Allard. Vous pouvez retrouver ce numéro spécial des Papous dans la tête en public à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines pour le Marathon des mots sur notre site franceculture.fr où vous pourrez le télécharger, c'est l'offre podcast pendant un an et pour la réécoute pendant 1000 jours, vous allez à la page des Papous d'aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain à 12h45 pour une nouvelle récré Papou, mi-public, mi-privé, côté public. La deuxième partie de nos Papous à Toulouse avec la petite fille en pleurs de Nougaro pour des variations lipogrammatiques en E avec Dominique Muller. Les dissertations d'Hervé Letellier et de Patrice Caumont, les corrections des examinateurs Fournier et Joncourt, et puis le final avec toute la troupe, la course du Marathon des mots. Et côté privé, en studio, Éval Massy, Gabriel Godard, Jean-Bernard Pouy, Jacques Vallée, Patrice Minet se joindront à nous pour une page de Publipapoucité et le DLA ou diagnostic littéraire à l'aveugle. Au revoir, passez un très bel après-midi à l'écoute des programmes d'été de France Culture.